enfants d'immigrés.
Deuxième génération.
Voilà quelques échos des manifestations qui ont eu lieu après les résultats d'avril 2002, des résultats des élections présidentielles. Tout ça pour nous mettre en bouche, puisque aujourd'hui on reçoit Annie Colovald, auteuse du livre Le populisme du FN, un dangereux contresens. C'est publié aux éditions du Croquant. Et peut-être pour commencer, revenir sur cette notion de populisme. C'est une notion que vous travaillez, qui est un peu au cœur de votre livre. Et peut-être on pourrait dire quelques mots sur l'histoire de ce mot, de l'histoire de cette notion. Voilà.
La manière dont elle apparaît et dont elle s'impose, en fait, sur le Front National. Alors, assez rapidement, c'est une notion qui apparaît au tout début des années 80. C'est Taguieff qui l'importe des États-Unis, notamment dans des débats sur la nouvelle droite américaine, et qui l'importe en France pour essayer de comprendre le Front National et montrer que le Front National n'est pas la résurgence d'une ancienne droite, mais est une nouvelle droite qui n'a plus donc les oripeaux à l'ancienne. Et puis très vite, les historiens, notamment les historiens de temps présent, c'est-à-dire ceux qui travaillent à partir de, enfin, sur les années 30 jusque maintenant, vont s'en emparer pour essayer effectivement de comprendre le Front National. Alors bien sûr, pourquoi les historiens se mobilisent à ce moment-là? Ça semble un peu quand même éloigné de leurs préoccupations. Non. Non, parce que lorsqu'apparaît le Front National, existe tout un tas d'étiquettes qui lui est accolée lorsqu'il surgit donc en 84 avec les européennes. Vous avez des gens qui le taxent d'être une extrême droite, d'être un fascisme, d'être du poujadisme rénové à peine, etc. Et le populisme n'existe pas encore à ce moment-là. Alors, le problème avec les historiens de temps présent, c'est qu'ils ont en fait un enjeu historiographique fort, c'est qu'ils défendent l'idée qu'en France, le fascisme n'a jamais existé. Même dans les années 30, il est resté en fait assez marginal. Et donc la France, par ses valeurs, aurait été en fait allergique donc au fascisme, c'est le terme qu'ils emploient, à la différence de l'Italie et de l'Allemagne. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs que le fascisme donc n'existait pas. Alors bien sûr, face à des mobilisations qui sont en train de se passer dans les années 84, qui taxent le Front National de fascisme, ça leur importe de dire que ces gens ont tort. Et donc ils vont montrer qu'avec le Front National, on n'a pas du tout affaire à du fascisme. Donc ils l'expliquent dans leurs travaux. Ils disent, voilà, avec le Front National, on a affaire à une nouvelle droite, c'est de populisme. Et on peut en retrouver en fait des ancêtres qui remonteraient très loin en fait dans le passé. C'est Boulanger, donc au 19e siècle. C'est Poujade, avec le poujadisme, donc dans les années 50. Alors ce qui est intéressant quand même à noter, c'est qu'ils prennent pour ancêtre de Jean-Marie Le Pen deux leaders ratés, un peu calamiteux, si l'on peut dire. Ils sont restés en fait en politique 2 ou 3 ans, sans plus. Donc si vous voulez, c'est aussi une manière de rassurer. C'est rassurant de se dire que les précédents du Front National n'ont pas réussi en fait à s'implanter. Bien sûr, ils vont être bien mentis dans le cours du temps, mais ça ne va pas les empêcher de continuer donc à dire que le Front National, c'est du populisme. Et puis après, vous avez une fraction de la science bien politique qui s'intéresse notamment donc aux élections, qui va elle aussi s'en emparer et dire effectivement donc le Front National c'est du populisme. La preuve, c'est qu'il rassemble très majoritairement les classes populaires. Et dans le cours du temps, donc autour des années 90, le terme va s'imposer et devenir l'interprétation classique et dominante de ce qu'est aujourd'hui donc le Front National. Alors, c'est intéressant en fait à analyser parce que lorsqu'on regarde ce que fait cette nouvelle étiquette qui s'impose donc sur le Front National. Bon, d'abord, on peut dire qu'elle euphémise l'injure de taxer le Front National de fascisme, c'est une injure rude que le Front National ne peut pas se réapproprier. Bon, d'ailleurs, il essaye même de lutter contre le label de l'extrême droite, puisqu'il attaque en justice ceux qui osent l'employer. Encore plus, en fait, avec le fascisme. Donc le populisme, ça a intéressé en fait le Front National. Bon, reste que cette étiquette donc euphémise, et en même temps donc elle euphémise l'injure contre le Front National, et en même temps elle change les regards que l'on porte sur le Front National. Quand on voit les commentaires en fait qui étaient faits sur le Front National dans les années 80, ils s'intéressaient à qui ? Ils s'intéressaient aux responsables frontistes, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, mais son équipe aussi, c'était Stirbois, c'était d'autres, hein, et il s'intéressait donc à ses militants. Avec le populisme, la focale change. On s'intéresse juste à Jean-Marie Le Pen et à ses électeurs. C'est-à-dire qu'on oublie l'élite qui dirige le Front National, c'est-à-dire le capital bien politique de Front National, les ressources que le Front National a, et on l'isole des autres bien partis politiques pour ne s'intéresser qu'à la relation immédiate entre le chef et ses troupes électorales.
Alors oui, sur le mot populisme, en fait, si on pousse un peu, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition objective et quelle est la définition qu'on a donnée aujourd'hui c'est pas trop rude.
Non. Alors ça va peut-être être encore un peu long si je suis longue. Le populisme, donc aujourd'hui, c'est une notion donc qui vise à qualifier et à classer le Front National, hein, puisque je vous l'ai dit, en le taxant de populisme, on dit donc qu'il n'est pas une nouvelle extrême droite, qu'il n'est pas en fait de fascisme, donc ça classe. Mais en même temps, ça donne une interprétation des raisons de son succès. L'interprétation, en fait, qui est liée donc au populisme, c'est liée à la définition que ceux qui en font usage en donnent. C'est un mouvement de mécontents, subjugué bon, par le charme, le charisme du chef, c'est-à-dire de Jean-Marie Le Pen, et de ses idées xénophobes. C'est la définition classique que vous retrouvez dans les dictionnaires de sciences politiques. Donc ça veut dire que c'est la définition classique. Donc cette définition impose une interprétation donc, des raisons du succès du Front National en politique. On dit, ben voilà, il y a la montée de l'insatisfaction, des insatisfactions à l'égard de la politique, le désenchantement à l'égard de ses représentants, l'augmentation du sentiment de l'impuissance de l'État et des gouvernants à résoudre les problèmes sociaux, et ben cet ensemble de facteurs a favorisé en fait la mobilisation de ce parti, la protestation, hein, puisqu'avec le Front National on aurait affaire, parti donc de protestataires. Et donc le Front National, et notamment donc Jean-Marie Le Pen, aurait exploité les malaises sociaux, et notamment ceux qui frappent les plus vulnérables socialement, c'est-à-dire ceux qui subissent la crise sociale de plein fouet. Donc il aurait exploité leurs malaises sociaux, et il en aurait fait, si l'on peut dire, son tremplin. C'est ce qui expliquerait, donc il rallierait à lui les mécontents, c'est-à-dire ceux qui sont victimes de la crise sociale, c'est-à-dire les groupes bien populaires, et qui auraient donc vécu une sorte de frustration sociale qui les inclinerait donc au ressentiment, et notamment au rejet des émigrés. Et donc c'est ce qui expliquerait leur adhésion aux thèses xénophobes de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà l'explication classique à l'heure actuelle, hein, de ce qu'est en fait le Front National et les raisons donc de son implantation en politique. Le problème, c'est qu'avant l'arrivée du Front National, le terme de populisme existait. Il était en usage en France, hein, mais avant, donc dans les années 70, et c'était un terme qui existait dans trois secteurs de l'interprétation de la politique. Un, la sociologie des intellectuels et de la culture. Deux, une science bien politique qui s'intéressait plutôt aux pays du tiers-monde en voie de libération. Trois, au sein de l'extrême-gauche, qui reprenait donc à son compte la définition de Lénine contre les populistes. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à ce moment-là, le populisme, hein, s'il accuse, s'il stigmatise non pas le peuple, mais les élites. les élites intellectuelles et politiques. C'est-à-dire que les populistes seraient été ceux qui manipuleraient les images, les intérêts en fait du peuple contre le peuple. Donc on peut dire que dans le cours du temps, il s'est opéré une inversion de la signification en fait de ce terme, puisque maintenant on n'évoque jamais en fait les élites intellectuelles et politiques, mais le peuple.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors c'est long aussi, c'est long. On peut dire, enfin moi j'en suis arrivée à la conclusion, je ne suis pas la seule, enfin quand je dis je me suis réapproprié toute une série de travaux sociologiques qui existent, hein. On peut dire qu'on est entré dans une conjoncture intellectuelle et politique nouvelle, où le peuple ne fait plus recette. C'est un très mauvais argument en politique, il vaut mieux pas en fait se référer au peuple, ça fait vulgaire, et puis c'est sans importance. Alors, comment expliquer cette nouvelle conjoncture ? Il y a plusieurs raisons, hein. On peut s'intéresser, bon, par exemple, à la transformation de l'offre politique, c'est-à-dire les partis politiques qui existent, hein, les discours qu'ils ont, etc. On s'aperçoit de quoi entre les années 1970 et aujourd'hui. Eh bien, on peut dire que les organisations qui représentaient les classes populaires sont en déclin. Le Parti communiste, par exemple, hein, le Parti socialiste n'évoque plus la classe ouvrière. Quand François Hollande évoque les travailleurs, il met des guillemets, montrant que vraiment il utilise ce terme, mais avec vraiment des réticences. Donc on peut dire qu'à gauche, c'était quand même la gauche qui s'intéressait quand même aux plus vulnérables, il faut le rappeler, ça n'a jamais été la droite. Hein. Il s'est produit toute une série de transformations à gauche, où dans la représentation bien politique, les classes bien populaires sont devenues presque invisibles. On en tient de moins en moins compte, on les évoque de moins en moins, on prend de moins en moins en compte leurs griefs sociaux, etc. Mais même dans le recrutement en fait du personnel bien politique à gauche, on trouve de moins en moins d'enfants de peuple. Hein, c'est de plus en plus des gens, quand on regarde le Parti socialiste, des gens qui viennent de l'élite sociale classique, de la bourgeoisie. Hein. Donc on peut dire que dans le cours du temps, l'offre politique s'est complètement en fait transformée. Et ce qui expliquerait que les classes populaires sont de moins en moins en fait une cause à défendre. Hein. Ça devient, bon, d'ailleurs, avec le populisme, plutôt un problème à résoudre. Hein. Moins une cause à défendre qu'un problème à résoudre. On peut aussi s'intéresser donc aux intellectuels. Dans les années 70, les intellectuels se mobilisaient assez fortement au nom de la classe ouvrière qui était vue comme l'avant-garde de la démocratie, l'avenir radieux. Alors, on en pense ce qu'on en veut, hein. Ça a pu amener à n'importe quoi, mais ça peu importe. En tous les cas, la classe ouvrière, chez les intellectuels, était vue comme la préoccupation, en fait, bien principale. Or, après mai 68, s'est opéré toute une série de reclassements chez les intellectuels, et on peut dire que leur messianisme s'est également en fait reclassé. Vous avez des anciens 68ards qui se retrouvent du côté du libéralisme, du néolibéralisme, d'autres qui vont se retrouver auprès de la cause des 100. Hein, d'autres dans la lutte antiraciste par exemple, ou d'autres encore dans la réforme de la démocratie. C'est un thème à la mode à l'heure actuelle, il faut réformer la démocratie est en crise, il faut trouver de nouvelles solutions. Vous retrouvez en fait des gens qui venaient de la gauche, qui avaient cru à la classe ouvrière, etc., et qui s'en sont éloignés. Donc les intellectuels aussi ont abandonné, si l'on peut dire, la classe ouvrière, etc. Donc c'est ce qui expliquerait en fait une conjoncture un peu nouvelle, hein, qui est en train de se constituer, où, comme je le disais, le peuple est de moins en moins en fait une cause à défendre et de plus en plus un problème à résoudre, puisque lorsque le peuple se mobilise, il se mobilise comment ? Eh bien, il se mobilise en votant FN. Donc il faudrait peut-être mieux qu'il ne se mobilise pas. Hein.
D'accord. Et ce type de raisonnement, on va le retrouver justement dans les analyses qui vont être faites sur les résultats, les scores électoraux du Front National, c'est ça ?
Oui, bien sûr, puisque si vous voulez, les analyses électorales, même si toutes ne réemploient pas le terme de populisme, elles réemploient, si l'on peut dire, les présupposés. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, hein, le populisme, c'est un mouvement de mécontents qui sont subjugués par le charisme de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, les analyses électorales vont montrer, un, que ce sont les victimes de la crise sociale, donc les classes populaires, les ouvriers, les employés, qui vont voter FN, et ils sont subjugués par Jean-Marie Le Pen, puisqu'on évoque à propos du Front National le pénisme, c'est-à-dire c'est Jean-Marie Le Pen qui attire, et leur vote serait donc une adhésion aux thèses que défend Jean-Marie Le Pen. Ce qui pose toute une série de problèmes sur ce point-là. Bon, par exemple, les commentaires à chaud lors du premier tour de 2002 ont mis quand même en évidence un fort racisme social à l'égard des électeurs FN, notamment classe populaire. Souvenez-vous, les largués, les paumés, les incultes, les ignares. Bon, ça c'est même les savants, si l'on peut dire, utilisaient ces termes-là. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est-à-dire que les jugements sociaux l'ont emporté en fait sur l'analyse sociologique de ce qui s'était produit. En même temps, vous avez eu des constats, donc sur la base de sondages sortis des urnes, que effectivement 31 ou 33% des ouvriers avaient voté Front National, donc ce qui permettait de dire que, par exemple, les sans diplôme, les sans revenus, avaient une propension à voter Front National. À l'inverse, l'intelligence, la culture, les diplômes, bien protégeait d'un vote au Front National. Bon, comment dire autrement qu'on a affaire là à des jugements normatifs extrêmement violents, comme si l'intelligence, la culture nous protégeaient d'une adhésion idéologique à un parti politique. Alors, si l'on raisonne sur les résultats qui étaient donc avancés, ils ont été, dans le cours du temps, un peu revus à la baisse. Bon, maintenant, bon, par exemple, Anna Meyer dit, sur la base de ceux qui ont voté, j'y reviendrai si vous voulez, parce que ça pose toute une série de problèmes, que maintenant, non, c'est plus 31 ou 33, c'est 23. 23% des ouvriers auraient voté FN. Donc, on aurait bien affaire à du populisme encore. Sauf que, quand on compare ces résultats avec les résultats des autres groupes sociaux, on s'aperçoit que les paysans et les agriculteurs ont voté Front National à 22%. Que les artisans, les petits commerçants, les petits patrons, 22% aussi. Que,
les retraités,
ça, ils l'ont pas inclus dans la... que les professions libérales, les cadres du supérieur seraient autour de 20%. Ça, mais ça ne fait pas changer en fait le diagnostic. On a affaire avec le Front National au premier des partis ouvriers. Vous voyez le problème, puisqu'on a affaire à un électorat hétérogène. Pourquoi se focaliser sur les ouvriers et les classes populaires, alors qu'on pourrait se focaliser par exemple sur les petits patrons et dire que le Front National c'est le parti des petits patrons? Non. Donc on voit bien que la définition en fait du populisme cadre les analyses, c'est-à-dire qu'on a des analyses qui fonctionnent en cercle. Le populisme, c'est un rassemblement d'hommes mécontents, donc les classes populaires. Les analyses montrent que ce sont les classes populaires, donc c'est bien de populisme. Donc on a affaire en fait à un cercle vicieux dans l'analyse. Alors on pourrait revenir un peu plus longuement, si vous le souhaitez, sur la manière dont les chiffres ont été faits.
Ben justement, on peut parler de ces questions-là parce que vous y consacrez un chapitre et c'est vraiment assez intéressant parce que nous on s'y évertue, on s'y essaye parfois, essayer de comprendre ce qui se passe sur des terrains locaux, là où on habite et tout. Mais en même temps, quand on voit comment sont fabriqués les chiffres d'un seul coup, vous faites entre autres pour exemple la distinction qu'on peut faire entre tous les niveaux de qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier, est-ce que c'est un contremaître, est-ce que c'est un ouvrier qualifié, est-ce que toutes ces distinctions-là, si on les réintroduit, donne un panorama politique totalement différent. Alors peut-être on peut effectivement dire des choses sur... pourriez nous donner quelques éléments sur comment on produit ces chiffres?
Alors, sur les chiffres, en tous les cas, sur les chiffres qui touchent aux résultats électoraux, ils sont fondés en fait sur des sondages, ce qui pose toute une série en fait de problèmes à l'analyse. Bon, les sondages, ce sont des déclarations faites à des questions auprès de gens. Donc, les déclarations. Ce ne sont pas les pratiques effectives. Ce sont les déclarations sur les pratiques. Bien. À l'inverse de, par exemple, ce que peut faire un institut comme l'INSEE, qui lui, en fait, travaille sur les bureaux de, c'est-à-dire sur les pratiques électorales effectives. Là, non, on a affaire à des sondages. Et le problème avec les sondages et donc avec sa déclaration, c'est la croyance que l'on fait ce que l'on dit et que l'on dit ce que l'on fait. Le problème avec ça, c'est le FN est un vote honteux. C'est-à-dire qu'il existe des censures à dire le vote FN. Et notamment, ces censures sont extrêmement fortes sur ceux qui savent très bien que c'est honteux de voter Front National. Et donc, notamment, chez les intellectuels ou chez les membres des élites sociales qui vont moins avouer que d'autres qu'ils peuvent voter Front National. Donc, ils n'apparaîtront pas, en fait, dans les chiffres. Le second problème, c'est que ces analyses résonnent sur les votants et non pas sur les inscrits, bon, par exemple. D'accord ? Ou ils ne résonnent pas aussi sur ce qu'on peut appeler les différentes formes de mobilisation électorale, c'est-à-dire inscription ou non sur les listes électorales. Abstention, vote blanc nul, vote, répartition de ce vote. Ils ne résonnent que sur le vote. D'accord ? Or, le problème avec les classes populaires, bon, par exemple, c'est que elles s'intéressent moins que les autres à la politique et que plus souvent, ce sont elles qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Ce sont elles qui s'abstiennent le plus fortement. Juste une indication, c'est de ça dont il faudrait en fait s'inquiéter. C'est qu'entre 1995 et 2002, l'abstention chez les groupes ouvriers est en hausse de 11 points. 11 points. Ce qui est énorme. Même si chez d'autres catégories, on a affaire à une abstention de plus en plus systématique ou intermittente. En tout cas, chez eux, c'est très très fort. Lorsqu'on réintroduit ça, donc inscription sur les listes électorales, abstention, vote blanc, vote bien. Alors là, le panorama change. Mais change vraiment de tout au tout. Et par exemple, on s'aperçoit que là où vont les ouvriers, leur vote, c'est l'abstention. C'est l'abstention qui est devenue le premier des partis ouvriers en France. 31%, ce qui est énorme. Et du coup, le vote FN est un vote non pas résiduel. Je ne suis pas en train de vous dire que les ouvriers ne votent pas Front National ou que certains ouvriers ne votent pas Front National. Ce que je voudrais vous faire entendre, c'est qu'ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le dit à le faire. Et par exemple, lorsqu'on a introduit donc ces différentes formes de la mobilisation électorale, on s'aperçoit que les ouvriers, si on veut raisonner sur ce groupe social en général, ont voté pour le Front National en 2002 à hauteur de 18%. La droite, 22%. La gauche, 29%. L'abstention, 31%. Donc ça veut dire que l'inclination en fait des classes populaires au vote, bon d'abord c'est l'abstention, et ensuite c'est la gauche, la droite, et enfin le Front National. Si l'on fait la même chose, par exemple avec les professions libérales et les cadres supérieurs de privé, on s'aperçoit que donc si on réintroduit donc l'inscription, l'abstention, etc., ce sont des gens qui sont très majoritairement inscrits sur les listes électorales, qui s'abstiennent le moins, c'est à hauteur de 5%. Bon, je vous rappelle, pour les ouvriers, c'est 31. Donc on voit bien en fait l'écart. Et quand on réintroduit donc leur vote, ils ont voté à hauteur de 26% pour le Front National. Donc il faudrait dire que le Front National est le représentant de l'élite sociale, et notamment l'élite sociale qui appartient en fait au pôle économique, ce qu'on appelle le pôle économique par rapport au pôle intellectuel. Et donc on aurait affaire avec le Front National à une forme de radicalisation des électeurs de droite, et non pas à un passage des électeurs de gauche à droite. Et sûrement pas donc à un rassemblement de mécontents, puisque les professions libérales, les cadres supérieurs du privé, même s'ils subissent la crise sociale, ce dont je ne doute pas, ne la subissent pas aussi fortement quand même que les ouvriers.
Chirac a recueilli 19,67% des voix, Jean-Marie Le Pen 17%, Lionel Jospin 16%, François Bayrou 6,89%, Arlette Laguiller, 5,77%. Jean-Pierre Chevènement, 5,36%. Noël Mamère, 5,27%. Sous la barre de 5%, on retrouve Jean Saint-Josse avec 4,29% des voix. Olivier Besancenot, 4,28%. Alain Madelin, 3,9%. Robert Hue, 3,4%. Bruno Maigret, 2,3%. Christiane Taubira, 2,1%. Corinne Lepage, 1,89%. Christine Boutin, 1,2%. Daniel Gluckstein, fermant la marche avec 0,47%. Jean-Marie Le Pen, 17%. 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 L'événement de ce premier tour, c'est donc le score de Jean-Marie Le Pen, un résultat sans doute favorisé par le fort taux d'abstention lors de ce premier tour, plus de 27% selon des chiffres officiels, un record dans une élection présidentielle depuis le début de la Ve République.
J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle.
Je sais que l'inquiétude est vive également dans la population française. Elle s'est d'ailleurs exprimée quelques minutes après l'annonce des résultats. Spontanément, des milliers de personnes ont manifesté dans l'Hexagone contre la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Manifestation à Paris, Marseille, Lyon, Dijon. Ils étaient plus d'un millier dans les rues de Grenoble, 4000 à Rennes et Strasbourg, 7000 à Toulouse. Des manifestations qui ont scandalisé Jean-Yves Le Gallou du mouvement national républicain de Bruno Maigret. Il laisse que le choix des électeurs ne doit pas être contesté.
Retrouve sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel pour de l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est toujours avec Annie Colovald qui a publié en septembre 2004, si je ne me trompe pas, Le populisme du FN, un dangereux contresens, la preuve qu'on ne court pas après l'actualité. C'est publié aux éditions du Croquant.
Oui, alors on, juste avant le petit extrait des résultats, on avait évoqué donc le problème de la construction des chiffres du vote et en général du vote pour le Front National. Et il y a aussi une sorte de mythe que vous déconstruisez dans ce livre, qui est les ouvriers, avant de voter pour le Front National, votaient massivement. Et vous démontrez que ce n'est pas forcément si tranché que ça.
Oui, là je pense qu'on a affaire en fait à deux mythes qui s'opposent maintenant, mais qui sont liés donc, à la transformation de la conjoncture intellectuelle et politique que j'avais évoquée auparavant. Donc effectivement, dans les années 70, les commentaires généralement retenaient que les ouvriers votaient très majoritairement pour le Parti communiste ou la gauche. Or, les analyses montraient que non, enfin oui, ils votaient majoritairement en fait à gauche, mais une large fraction d'entre eux quand même votaient également à droite, aux alentours de 35 à 40%. Sinon, d'ailleurs, on ne pourrait pas expliquer le gaullisme, le succès de gaullisme, sans ses électeurs bien populaires. Ça a été un mythe, en fait, collectif, entretenu, bien sûr, par le Parti communiste, qui se présentait comme le défenseur de la classe ouvrière. Donc, il fallait bien qu'il rassemble la classe ouvrière. Mais toute une série de travaux ont montré que parmi les électeurs et les militants de Parti communiste, on trouvait également des petits intellectuels, des paysans, etc. Et donc, c'était le travail des dirigeants du Parti communiste de homogénéiser, de donner une vision unifiée deux partis. Mais leurs opposants aussi avaient intérêt à le montrer comme rassemblant, en fait, la classe ouvrière. Et donc la droite accusait, si l'on peut dire, le Parti communiste d'être le parti des ouvriers. Et sous cet angle-là, ça permettait de comprendre qu'on avait affaire à des dirigeants qui parlaient mal, qui parlaient la langue de bois, hein, qui étaient un peu des automates, hein, qui ne savaient pas trop bien ce qu'ils disaient. On peut se souvenir de toutes les critiques et les jugements sociaux qu'on puisse attirer, soit Georges Marchais, soit bien Krasucki. Hein. Et donc ça permettait à un certain nombre de commentateurs de dire bah, c'est pas très étonnant, hein, puisque on a affaire à des gens qui ont juste le certificat d'études bien primaires. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient des idées primaires. Hein, donc c'était déjà en fait des jugements qu'on retrouvait sur le Parti communiste et que l'on retrouve maintenant sur les électeurs et sur le Front national. Donc c'était également un mythe. Et justement, les analystes électoraux à l'heure actuelle qui s'intéressent donc au Front national, notamment ceux qui évoquent le passage des électeurs de gauche à l'extrême droite, hein, oublie qu'une large fraction en fait des ouvriers, donc autour de 30 à 40%, étaient des électeurs de droite. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le monde ouvrier, le monde bien populaire, est un monde hétérogène, bien sûr. Ce n'est que en prenant une hauteur de vue faramineuse que l'on gomme les différences qui existent entre les différents ouvriers, ceux qui sont qualifiés, spécialisés ou les contremaîtres. Hein. Il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies aussi en fonction des lieux de travail. On travaille à l'usine ou on travaille chez un petit commerçant ou un petit artisan, etc. Donc c'est cet ensemble de phénomènes-là en fait qu'il faut prendre en compte pour comprendre l'inclination ou le rapport à la politique des groupes ouvriers. Au lieu de te parler de la classe ouvrière, il faut plus, à mon avis, évoquer les mondes ouvriers. Et donc, lorsqu'on s'intéresse au Front National, il faudrait s'intéresser à ceux qui votent Front National et qui viennent donc de la classe ouvrière ou du monde ouvrier. Lequel ? Vous avez des analyses qui font sur les bureaux de vote, qui montre que les ouvriers qui se retrouvent le plus à voter FN sont des ouvriers qui sont rattachés au pôle économique, c'est-à-dire les ouvriers qui appartiennent à de très petites entreprises, qui sont soumis en fait à un petit patron, qui n'ont pas forcément en fait un diplôme, non pas élevé, c'est pas le propos, mais peut-être pas en fait un CAP qui leur donne en fait des compétences bien technique. Et donc, c'est plutôt, ça serait, mais ça serait en fait à vérifier, hein, donc avec d'autres analyses, on aurait affaire bon, plutôt à des ouvriers qui seraient liés au pôle économique. Et donc, du coup, ça rejoint un peu ce que je vous disais avant. Ça nous permettrait de comprendre, quand on regarde la montée des professions en fait libérales, des cadres supérieurs du privé, des petits artisans et commerçants et des petits patrons votant FN, on a affaire vraiment à une clientèle électorale, si l'on peut dire, qui serait la clientèle électorale de la droite classique, mais qui se serait en fait radicalisée. Donc, comment en fait faire de nouvelles analyses ? Bon, pour avoir un peu des éléments de réponse sur qu'est-ce qui incline des gens à voter Front National. Je crois qu'il y a plusieurs choses à rappeler. Bon, je vous l'ai dit, hein, l'électorat Front National est très hétérogène. Bien. Mais surtout, c'est quelque chose que masquent, si l'on peut dire, les commentaires en termes de populisme et de lepénisme, c'est qu'on n'a pas affaire avec l'électorat frontiste à un électorat fidèle. Quand on retrace les itinéraires de vote, depuis 1988 jusque maintenant, ce qu'a fait d'ailleurs un sociologue qui s'appelle Lehing, on s'aperçoit que seule une étroite fraction des électeurs est fidèle en fait à Jean-Marie Le Pen autour de 3%, ce qui est peu. Ce qui remet en cause le lepénisme, c'est-à-dire aussi le charisme de Jean-Marie Le Pen, parce que sa communauté émotionnelle chez les électeurs, elle est très très étroite. Mais par contre, l'énigme que pose le Front National, c'est qu'on a affaire à une forte fluctuation des électeurs. Certains de ces électeurs votent une fois FN, puis ne vote plus FN. D'accord ? Et quand on retrace donc ces itinéraires de vote, comment est-ce que vous avez voté en 88, en 95, en 2002, on s'aperçoit que près d'un électeur sur quatre a voté au moins une fois Front National.
Mais le problème, c'est malgré tout, d'élection en élection, le score du Front National est relativement stable ou progresse légèrement d'année en année. Donc malgré cette hétérogénéité, il y a quand même quelque chose qui se passe qui fait qu'il fédère
un électorat. Alors là, il y a deux réponses. Ouais. Bon, d'abord, sur la progression. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le Front National, c'est sans importance, c'est pas un danger. C'est pas mon propos. Hein. Mais il est en progression nettement moins forte que ce qu'on en dit. Généralement, les résultats électoraux se réfèrent au pourcentage, hein, donc à des sommes qui sont agrégées. Voilà, donc le Front National serait passé d'un seuil à 10%, à un seuil à 15%, et avec 2002, 20%. Le problème, c'est que lorsqu'on se reporte au corps électoral lui-même, c'est-à-dire au nombre de gens qui ont voté, le chiffre reste stable. Hein. C'est en fait l'abstention qui fait varier le pourcentage. Mais le chiffre est autour... Alors, c'est beaucoup, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est peu, hein, mais c'est autour de 3 millions. Bon. Reste... Bon. Et pas les 5 que l'on a dit donc en 2002. Hein. Donc il n'y a pas de progression, reste que ça reste stable, si on peut dire. Bon. Sauf que sous cette impression de stabilité, à chaque fois, les électeurs changent. Ce ne sont pas les mêmes. Je vous l'ai dit, sur les 3 millions, seuls 3% ont voté depuis 88 FN. Les autres, ça a changé. Donc, c'est une énigme, ça. C'est-à-dire qu'il faut raisonner, non pas en termes d'une adhésion idéologique aux thèses de Jean-Marie Le Pen, mais plutôt se référer aux analyses classiques en sciences et en politique. Quels sont les usages sociaux de la marque électorale FN ? Qu'est-ce que les gens trouvent à faire un usage intermittent de cette marque ? Et pourquoi ils votent à ce moment-là ça et pas autre chose ? En refusant également cette autre hypothèse, hein, ce postulat, bon, plutôt, que l'ensemble des groupes sociaux, l'ensemble des électeurs sont intéressés, bon, par la politique. Vous avez des électeurs qui votent parce que ça se fait, bon, parce qu'il faut bien le faire, bon, parce que leurs parents leur ont appris à voter, bon, parce que leurs amis votent, donc il faut bien voter, sans qu'ils adhèrent forcément aux idéologies qui ont été bien professées. Et dans le livre, je cite, alors je m'en excuse auprès de l'auteur parce que j'ai oublié son nom, mais je me souviens du titre de son livre, ça s'appelle « Les larmes de Marianne ». Donc c'est un sociologue qui a fait une analyse d'électeurs Front National et pour une fois il ne s'est pas intéressé exclusivement en fait aux ouvriers ou aux employés mais à des électeurs lambda. Et j'ai cité donc cet exemple, moi qui me semble très, très exemplaire en fait de ce que j'essaye de faire entendre. C'est le cas d'une étudiante dont le père est immigré, qui a des frères. Cette étudiante, donc elle est à l'université, elle n'a pas son diplôme. Hein. Le père est immigré, il est maghrébin, il a deux frères, mais elle est fiancée à un Français, entre guillemets. Et elle ne supporte pas, en fait, les remarques de ses frères sur son fiancé, le fait qu'il l'empêche de sortir avec lui, de sortir le soir, etc. Et lorsqu'elle va voter, en plus ses frères, bon, donc, méprisent un peu le père, mon père auquel elle est très, très attachée, bien. Et quand elle va voter, elle dit très bien, quand j'entre dans les Eaux-de-Loire, je n'ai aucune idée du bulletin de vote que je vais prendre. J'ai pensé à mes frères, je me suis dit, je vais leur faire moi aussi une saloperie. Donc je vais voter FN. J'aurais songé à mon père ou à ma mère, jamais. je l'aurais fait. Donc, si vous voulez, là, c'est une forme de règlement de compte avec des proches. Ça n'a rien à voir avec une idéologie, avec une adhésion idéologique, aux thèses xénophobes, etc. C'est sur ces usages. Alors, bon, bien sûr, c'est un exemple, un cas, mais qu'on pourrait, en fait, multiplier. Vous avez des tas de gens qui votent. Une fois, je vous l'ai dit, et après, ne votent pas, est fait pour enquiquiner le voisin, en remontrer à leur mari ou à leurs proches, etc. Bon, ben voilà, il faut essayer de comprendre ce type de vote. Bon. Et si l'on veut essayer de les comprendre, c'est sûrement pas, en fait, par sondage qu'il faut bien procéder. Il faut faire des entretiens, et des entretiens longs, c'est-à-dire qui retracent la biographie des individus, la manière dont ils voient le monde, ils se représentent la politique, l'avenir, leur rapport aux autres. Ce n'est que de cette manière qu'on peut comprendre un vote, qui est un vote très énigmatique, à l'inverse de ce qu'on peut en dire.
Mais malgré tout, ça n'empêche pas que voter pour le Front National, c'est quand même un danger quelque part en régime démocratique, compte tenu du programme politique et des idées qu'expose et défend cette organisation.
Oui. Oui,
mais, donc, on ne peut pas non plus...
Non, je ne les exonère pas. Je distingue en fait deux choses. Le problème, c'est qu'avec ces électeurs-là, vous n'avez pas à faire, encore une fois, un vote idéologique. Bon, d'accord. Donc ils n'ont pas le sentiment de mettre en crise la démocratie. Ça va être les interprétations ensuite qui vont homogénéiser en fait leur vote, dire voilà, on a affaire à un électorat FN qui adhère à la thèse xénophobe, etc. Et donc, c'est là, en fait, le danger. Le danger parce que ça, d'une part, ça stigmatise des électeurs, ça stigmatise aussi le Front National, et ça exonère, si l'on peut dire, les élites sociales et politiques. Et donc, qui peuvent, à moindre coût, dire « Ah, mais nous, on est des démocrates. Lui, c'est le méchant. » À juste titre. Hein. Bon, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas lui le méchant. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais qui peuvent s'autoriser de ça, bon, pour dire, mais nous, on est mieux quand même, on est des démocrates, etc.
Oui. mais sur...
Juste pour illustrer ce que vous disiez, il y a quand même quelque chose qu'on entend de manière très... récurrente, c'est auprès justement de c'est comme argument, comme menace. Si c'est ça, la prochaine fois, je voterai Front National, qui est quelque chose qu'on a eu l'occasion régulièrement d'entendre, espèce de menace terrible de dire voilà, moi j'ai toujours interprété comme dire pratiquer un suicide qui va
oui,
être collectif.
Oui, ça rejoint votre introduction sur le. Le suicide de mode d'emploi.
Oui. Dans c'est un peu...
Oui, sauf que vous avez des gens qui le disent et qui ne le font pas. C'est une manière d'en remontrer à l'intellectuel, remontrer au petit jeune là, qui croit avoir la science infuse. Moi, je vais lui dire un peu ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Vous avez toute une série d'acteurs sociaux qui ont du cran social, c'est-à-dire qui osent dire qu'ils ne feront pas ce que vous attendez d'eux. Mais rien ne dit qu'ils le fassent, hein. Et il faut aller voir exactement ce qu'ils font. J'ai un exemple auquel je me réfère souvent. C'est un proche que j'aime énormément. Quand je parle avec lui, c'est souvent en fait ce qu'il me dit. Ouais, mais quand même, le Front National, ça ferait un peu de bien parce que franchement, ça remettrait de l'ordre. Et puis les immigrants, on en a vraiment marre. Bon, moi, j'aime pas les immigrés, j'en ai marre. Bon, à la façade, on se dit, c'est un sale con, raciste. Oui. Sauf qu'une fois, ce sale con rentre le soir, donc en voiture, il voit un jeune couple en train de se faire agresser. C'est dans une petite ville de province. Il arrête la bagnole, il y va, il tape sur les autres, il reçoit un coup de couteau, il va à l'hôpital. Le petit couple, c'était des blacks. Alors je lui dis, mais enfin, tu t'arrêtes là Ah non, mais attends, ça n'a rien à voir. Hein. On ne fait pas ça. On n'agresse pas les gens. Enfin, vous voyez, vous avez des valeurs qui sont, rien ne dit, et j'en suis sûre, qui ne votent pas, en fait, FN. N'empêche que pour m'enquiquiner, moi, si c'est en fait mes idées, il va me raconter des âneries. C'est le problème avec les sondages, par exemple. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut retracer les biographies classiques, etc., et fines de ces gens-là. Alors, reste que c'est vrai, ça pose un problème, ça pose un problème. C'est le Front National est un danger pour la démocratie. Ça, c'est clair. Mais il n'est pas situé là où on le place, généralement. Lorsqu'on regarde ce qu'a fait l'apparition du Front National en politique, ce que ça a fait. Ça, si on peut dire, lever un indicible. Ça peut en fait vous intéresser. C'est-à-dire que des propos qu'il y a 20 ans auraient été jugés intolérables, inadmissibles, racistes, sont maintenant admis. Et on les voit repris par des savants, des responsables politiques, comme si ça allait de soi. Un exemple. J'ai trouvé un sondage des années 70 à propos des émigrés. Et puis j'en ai pris là, donc à l'heure actuelle. Alors, dans les années 70, c'était « Vous savez que la France reçoit des travailleurs émigrés. Est-ce que vous avez le sentiment que la France fait tout pour qu'ils soient bien intégrés, pour leur donner des logements corrects, pour leur apprendre le français, etc. » Maintenant, est-ce que vous estimez que les émigrés ont droit à des aides sociales lorsqu'ils sont au chômage? Est-ce qu'ils ont droit à avoir une mosquée en France? Il y a 20 ans, mais ça aurait fait hurler. Maintenant, ça devient de simples produits de sondage. Et dans la classe politique, vous avez des gens qui parlent de seuil de tolérance, odeur, invasion. Ce sont même des termes qui sont repris au niveau de la Commission européenne et qui participent à des rapports de commissaires européens sur le contrôle des flux migratoires. C'est-à-dire que dans le cours du temps, un indicible a été en fait levé. Ce qui était juste ignoble, maintenant en fait est admis. On peut en fait en parler. Voilà. Donc ça a été un des effets de l'introduction du Front National en France, c'est-à-dire que les partis politiques se sont réorganisés autour de lui et pour certains ont repris certaines de ses idées en les métamorphosant, bon, bien sûr, et en ont fait leur préoccupation centrale. C'est la sécurité, c'est l'immigration, etc. On peut quand même citer la phrase de Fabius en 84. Le Pen pose de bonnes questions mais apporte de mauvaises réponses. Le fait de dire ça, c'est énorme. C'est énorme. La classe politique s'est réorganisée en fait autour de FN. C'est là en fait où se situe le danger. C'est pas sur un vote du peuple pour le Front National. C'est sur les élites politiques, les intérêts qu'elles peuvent avoir à se distinguer, se démarquer, etc. Et à reprendre des idées qu'il y a 20 ans auraient été jugé inadmissible.
On est toujours avec Annie Colovalde pour la publication de son livre « Le populisme du Front National, un dangereux contresens » aux éditions du Crocan.
Eh bien justement, sur la qualification du FN de populiste, vous démontrez très bien, et on s'en doute, que ça l'arrange bien plutôt que d'être qualifié de fasciste, par exemple.
Ah oui, non, ça c'est le moins en fait que l'on puisse dire. Ce qui montre bien que ces commentateurs qui utilisent la notion ne s'interrogent jamais sur ce qu'ils sont en train de faire quand ils utilisent cette notion. C'est quand même un peu, on pourrait leur reprocher un manque de réflexivité. Chez des intellectuels, c'est particulier.
On est d'accord.
oui, bien sûr, non. C'est devenu en fait une véritable ressource de légitimation pour le Front National. En 15. Maigret va produire donc le programme de Front National et va dire oui, le Front National est un populiste, nous sommes les vrais représentants en fait du peuple, etc. C'est-à-dire que ça pose un autre problème, c'est-à-dire de bien analyser ce dont ces responsables frontistes sont capables. C'est-à-dire que généralement, avec le terme de populisme, on les voit un peu comme des beaufs. Hein, bon, des beaufs, bon, qui font des lapsus. Hein, ils savent pas trop comment faire, etc. Puis en plus, ils sont un peu vulgaires, ils parlent mal. Le problème, c'est que quand on regarde ces dirigeants, on a affaire à autre chose qu'à des beaufs et à des gens vulgaires. Bon, d'abord, la plupart d'entre eux appartiennent aux classes supérieures. Il faut quand même le rappeler. Des universitaires, des cadres supérieurs du privé, des avocats, etc. Bon, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études. Mais aussi qui sont entourés, et alors là vous avez des travaux sur le FN qui le montrent très bien, Camus, Manza, etc., montrent très bien que les rivalités internes à l'extrême droite sont des rivalités qui se règlent à coup d'idéologie. C'est-à-dire que vous avez affaire à des professionnels des idées, bon, des gens qui sont des intellectuels, si l'on peut dire, d'un certain genre, hein, mais qui sont capables de manier des idéologies et des idées. Ce sont aussi des professionnels de la politique aguerris quand on regarde Jean-Marie Le Pen, mais il n'est pas le seul, ça fait 50 ans qu'il est en politique. Donc on ne peut pas dire que c'est un novice. Ce sont des gens qui sont des vieux militants, qui connaissent très bien en fait la politique. Ça veut dire qu'ils ont des ressources politiques extrêmement importantes. Et c'est généralement ce qu'on oublie. Or ça leur donne la capacité de retourner en leur faveur toutes les attaques, les critiques, les stigmates qu'on leur renvoie. Ils peuvent le faire. Ils peuvent même utiliser des travaux scientifiques fait dans une logique scientifique, ils les retournent à leur profit. Bon, par exemple, les analyses sur la démographie en France, qui montrent que les étrangers sont de plus en plus nombreux, pouf, ils peuvent les lire, les retourner en fait à leur faveur pour démontrer, bah, vous voyez quand même, ils sont là depuis longtemps, etc. Ils ont fait à peu près la même chose, mais alors là, sans coup férir, avec ce que disent donc ceux qui utilisent le terme de populisme, c'est un nationalisme. C'est ce qu'on dit. Étriqué, fermé, bon, ça peu importe, c'est du nationalisme. Le problème, c'est que là, c'est l'inverse, si l'on pourrait dire. Quand on regarde ce que les dirigeants frontistes font aux gens qu'ils labellisent comme immigrés, on s'aperçoit qu'ils taxent d'immigrés des jeunes qui sont nés en France. C'est son français. C'est-à-dire qu'il leur enlève leur nationalité en les taxant d'immigrés. Entre parenthèses, c'est un terme que l'on voit de plus en plus employé, jeunes immigrés, alors qu'on a affaire sans doute à des beurs, sans doute à des blacks, mais français. On les labellise jeunes immigrés, ce qui est faux. Bon, ça veut dire que ce vocabulaire est rentré aussi, en fait, ordinaire. On ne s'aperçoit plus de ce qu'on est en train de dire lorsqu'on dit ça. Et on pourrait dire alors que le Front National n'est pas du tout, en fait, un nationalisme, c'est un dénationalisme. Et alors là, si on veut faire d'affiliation, c'est à Vichy qu'il faut monter et à ses politiques radicales. Donc on a vraiment affaire à un parti politique. Et c'est sans doute ce qui peut vous intéresser. Et ce qui, moi, me fait craindre, enfin, moi, bon, à la suite de mon analyse, me fait craindre, c'est qu'on a affaire à un parti politique qui s'est très bien usé du faux semblant. Il suffit maintenant qu'ils disent classe ouvrière pour que tout le monde dise « Ah, c'est un populisme, il défend la classe ouvrière et en plus, il attire les votes ouvriers », ce qui est faux. Mais il sait en fait en jouer. C'est-à-dire que c'est un parti politique qui sait jouer du double jeu. Il sait prendre aux autres au piège de leurs propres croyances, et notamment les croyances en la démocratie. Et par exemple, toutes les analyses, là, disent que puisque le Front National participe aux élections, c'est qu'il s'est assagi, notabilisé, il a changé, ils ne sont plus les mêmes. Bon. Le problème, c'est quand on regarde ces pratiques militantes. Et là, vous avez des travaux qui sont extrêmement intéressants et qui montrent qu'une fraction en fait, des militants frontistes usent de la violence physique, non plus en France, mais à l'étranger, lors des guerres. Et ils sont allés continuer à apprendre à manier les armes, à se battre, etc., au Liban, en ex-Yougoslavie. C'est-à-dire que vous avez un parti qui fait semblant de s'acclimater à la démocratie en France, mais continue à pratiquer la violence physique ailleurs. Et donc, rien ne dit que les conditions changeant, ils ne puissent faire usage de la violence en France, après. Donc c'est ça, en fait, le Front National. C'est un parti qui use du double jeu. Il fait croire qu'il s'acclimate à la démocratie et il continue à être hostile à la démocratie. Mais il faut prendre les deux ensemble. Il est les deux ensemble. Il est acclimaté et il est hostile à la démocratie. Ce qui rend en fait la lutte contre le Front National assez difficile.
Alors Nicolò Valzi, on revient un petit peu sur votre livre le populisme du FN. On se rend compte pour nous qu'il y a c'est une analyse une nouvelle de plus, j'allais dire, c'est pas, mais on a l'impression que tous les ans il va y avoir une nouvelle analyse de comment comprendre le Front National, qui sont très souvent très divergentes, souvent avec une sorte de concept à la clé. Alors par quoi ça s'explique? Est-ce que c'est par un phénomène interne au champ des chercheurs qui ont besoin de se démarquer des autres, ou vraiment il y a derrière ça des enjeux dans la qualification, ou alors c'est simplement des mauvais chercheurs?
Non, quand même. Non, mais je pense que c'est un phénomène qui inquiète. On a beau être chercheur, on est aussi citoyen. Donc c'est un phénomène qui inquiète. Donc, en plus, je pense que l'élection de 2002 ont levé une censure du travail sur le Front National, notamment chez ceux qui appartiennent plutôt à la fraction de la sociologie à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire plutôt à la fraction socio-historique qui fait... On était plutôt enclin à se désintéresser, si vous voulez, des phénomènes les plus actuels. Ensuite, dans le champ de la discipline, le Front National était jugé un objet un peu indigne, un peu sale. Bon, et puis ça posait des problèmes aussi. Comment y avoir accès, faire des entretiens avec des militants, avec les dirigeants, etc. Bon. Sur un autre plan, vous aviez d'autres chercheurs, et notamment donc ceux que je critique, qui travaillant sur les sondages, c'est beaucoup plus facile de travailler sur l'actualité. En plus, comme ce sont des chercheurs qui sont appelés par les journalistes à intervenir, autant travailler sur l'actualité. Je crois qu'un des effets de 2002, ça a été de réveiller une forme de sens civique chez des chercheurs qui auparavant se réfugiaient dans leurs bureaux ou dans leurs analyses classiques, si l'on peut dire. Il y a eu une forme de retour à Marc Bloch. Hein. Avons-nous été suffisamment citoyens? Donc on a commencé à se poser cette question-là. Et comme vous l'avez compris, enfin je pense, il y a des enjeux internes à la discipline extrêmement forts, avec un clivage très fort, hein. Ceux qui font des sondages, qui comprennent la politique sous l'angle des idées, des idéologies, ceux qui reviennent sur les pratiques sociales, adoptent un point de vue historique, font des entretiens, vont sur le terrain pour aller vite. Je vais me faire tuer, je pense. Il y a eu cette volonté aussi de ne plus laisser le sujet FN à des gens qui, à nos yeux, disaient à peu près n'importe quoi, et surtout qui produisaient en fait des erreurs scientifiques, puisque un des objets du livre, c'est de dire que le populisme, c'est une erreur scientifique.
Alors, dernière question sur laquelle on voulait venir, nous, qui nous préoccupe beaucoup, c'est comment lutter contre l'extrême droite. Vous avez dans votre livre et dans votre étude essayé de prendre le mécanisme et de mettre un petit peu sur pied la compréhension des scores électoraux du Front National. Mais quel bilan vous faites des mouvements contre l'extrême droite, de fascisme? D'ailleurs, est-ce que vous qualifiez le FN de parti fasciste?
Tout ça en 5 minutes.
Non, tout ça en 5 minutes. Alors, je vais faire vite. Si on veut faire de la politique, oui. Je taxe le Front National de fascisme. D'accord. C'est une opposition idéale qui obéit à des conditions nouvelles de la déloyauté en politique. C'est un peu ce que j'ai dit, c'est le double jeu, s'acclimater à la démocratie et continuer à être hostile à la démocratie. Donc si je veux faire la politique, c'est-à-dire si je veux lutter, j'emploierai jamais en fait le terme de populisme, puisque j'ai montré que c'était en fait une ressource de légitimation. Bon, par contre, fasciste, il ne peut pas en fait leur employer. C'est une injure et je maintiendrai ça. Comment lutter contre, je dirais, vous avez sans doute raison de continuer à lutter comme vous le faites. Hein. Il n'y a pas de raison, toutes les armes sont bonnes. Moi, je déplacerai un peu la question. C'est-à-dire, comme on voit que ce sont en fait les classes populaires qui sont stigmatisées, qui sont montrées comme étant les principaux soutiens de Front National, j'essaierai de rallier à moi les classes populaires, c'est-à-dire de les faire revenir en politique, de travailler en fait auprès de la classe populaire. Quand on voit le militantisme actuel, AC, ACT UP, bon, des mouvements qui sont intéressants, qui sont importants, je ne reviens même à TAC, c'est très bien, on s'aperçoit que c'est plutôt une petite élite. Hein, c'est des enseignants, sont des étudiants, etc. C'est très bien. Il faudrait réussir à associer, en fait, les classes populaires, ne serait-ce que pour montrer visiblement, hein, qu'elles ne sont pas ralliées, en fait, au FN. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'attaquerai plutôt, en fait, les responsables politiques actuels. C'est-à-dire que je les rappellerai à l'ordre. C'est-à-dire en leur disant ça, il y a 20 ans, vous ne l'aurez jamais dit, ça, c'est inadmissible, ça, c'est inadmissible. Donc, je reviendrai sur les politiques actuelles. Oui. En essayant de dire que le libéralisme, le néolibéralisme amène en fait le succès de Front National.
Voilà, ben on rappelle une fois de plus, donc Yannick Holowald, ça coûte 12 euros et c'est plié dans cette maison d'édition provinciale qui sont les éditions du Croquant, le populisme du FN en dangereux contresens.